France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet,
Pascaline Pelletier, sommelière.
Épisode 1, une bête à concours. Bonjour Pascaline Pelletier.
Bonjour Caroline.
Sommelière, dites-vous. Alors, c'est pas banal de recevoir une sommelière dans ces séries à voix nue, mais il faut dire que vous êtes une sommelière pas banale, même atypique. Votre histoire, c'est l'histoire d'une petite angevine devenue new-yorkaise. C'est l'histoire aussi d'une étudiante en philosophie qui a décidé de plonger dans les tonneaux de vin. C'est enfin l'histoire d'une ascension fulgurante dans le monde de la sommellerie, puisque vous cumulez les honneurs et les récompenses dans votre domaine. On va en donner quelques-uns des honneurs. En 2018, vous avez réalisé le doublé historique de meilleure sommelière de France et de meilleure ouvrière de France dans la section sommellerie. En 2019, vous avez été la première femme à recevoir le prix de la personnalité de l'année de la revue du vin de France. En 2023, vous avez fini quatrième au concours de meilleur sommelier du monde. En 2024, vous êtes devenue la deuxième meilleure sommelière d'Europe. Et à l'heure où nous enregistrons ces avoinus, en septembre 2025, vous vous préparez à repasser le concours de meilleure sommelière du monde en octobre 2026. Est-ce que, Pascaline Lepelletier, les concours sont intrinsèquement liés à l'univers de la sommellerie ou c'est vous qui aimez les compétitions de haut niveau ?
Non, les concours ne sont pas intimement liés à la profession de sommelier. C'est un choix. Ça fait partie de la profession depuis un certain temps. D'une certaine manière, ça a un petit peu sauvé la profession dans les années 60. Parce que la profession de sommelier est un métier relativement récent, en fait, dans l'histoire du monde de la restauration. C'est un métier qui est apparu au début du XXe siècle, vraiment, quand la restauration telle que nous la connaissons actuellement, menus, plats, se sont mis en place. Et le sommelier, à l'époque, en fait, mettait les vins en bouteille au restaurant. C'était un métier un peu technique. Les tonneaux arrivaient au restaurant. Le sommelier, en fait, ne faisait pas encore les accords mets et vins, simplement parce que c'était difficile de les faire. Il n'y avait pas forcément les mises en bouteille et tout cela. Et donc, ce métier de praticien de la mise au restaurant, en fait, petit à petit, après la guerre, s'est un petit peu effacé. Le métier s'est transformé en ce que nous connaissons aujourd'hui, mais a connu un petit creux dans les années 60. Le maître d'hôtel était beaucoup plus présent et c'est en fait des concours de sommellerie qui ont remis en avant le métier de la sommellerie. Et c'est ainsi que se sont créées vraiment ces associations nationales, internationales. Alors la France en avait déjà, mais petit à petit ça s'est mis dans les pays du monde entier. Et c'est grâce à des concours que le métier a été revalorisé dans les années 60 et qu'aujourd'hui on peut vraiment avoir des sommeliers en salle. Donc d'une certaine manière ça fait partie de l'ADN du métier, mais d'un autre c'est un choix personnel que je fais ou que d'autres collègues font. Et il y a plein de sommeliers exceptionnels dans le monde qui ne prennent pas la voie des concours.
Alors comme les concours font partie de votre vie de sommelière, que c'est aussi comme ça que vous vous êtes fait connaître du grand public, je vous propose de commencer ces entretiens par les concours, c'est-à-dire par la préparation, les déroulements de ces compétitions. Et ça permet aussi, je pense, de cerner le métier qui est le vôtre et qui est peut-être trop souvent d'ailleurs associé au seul vin. On ne sait pas beaucoup que le sommelier, la sommelière, ne connaît pas seulement le vin, mais finalement toutes les boissons.
Oh, je pense que c'est une association naturelle. Le sommelier, c'était la personne qui était en charge de tout l'apprêtement royal ou des cours transportés pour les repas, en fait. Donc il y a une association naturelle avec le manger et le boire. Pendant longtemps, dans les restaurants, en fait, la seule boisson qui demandait un petit peu de technicité ou d'expertise était le vin. Et cela a été pendant encore assez récemment. Et du fait de l'évolution des modes de consommation, de l'internationalisation de la gastronomie, de l'ouverture à beaucoup d'autres cultures, nous avons bien vu que depuis une cinquantaine d'années, en fait, le vin, qui était la boisson un petit peu emblématique du manger et du boire dans le restaurant, s'est diversifié. Donc, au fur et à mesure, nous avons bien évidemment les bières étaient déjà présentes, mais pas forcément avec de l'expertise sur table. Donc les bières, toutes les boissons fermentées, les cidres. Et avec l'évolution du métier et des tendances, aujourd'hui, ce sont vraiment toutes les boissons du monde. Donc cela va des eaux, la connaissance des eaux minérales, de leur incroyable diversité, évidemment aux boissons de fin de repas. Alors on pense évidemment au digestif, mais ce sont aussi en fait les thés, les cafés. Et aujourd'hui, avec la tendance des boissons avec moins d'alcool, il faut aussi que nous connaissions les boissons sans alcool. Donc c'est vraiment, je suis une spécialiste des boissons au service du client dans un restaurant. Et effectivement, je dois connaître toutes les boissons du monde, à la fois pour ma clientèle et pour ma culture professionnelle.
Donc c'est un premier critère de sélection, de savoir, de connaître absolument toutes les boissons du monde. Et connaître les boissons du monde, Pascaline Le Pelletier, ça veut dire quoi ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord connaître leur existence, savoir d'où elles viennent, comment elles sont produites, après savoir les déguster. On goûte pas un vin comme on goûte un café. L'année dernière, j'ai eu la chance exceptionnelle d'aller au Pérou et de faire une récolte de café dans une ferme en biodynamie, grâce à l'arbre à café. Et j'ai pris en fait des cours sur place de cupping, c'est la façon dont vous goûtez le café. Et comme le café, certains éléments identique au vin, on a des acides, on a de l'eau, on a des phénols, mais on n'a pas, par exemple, d'alcool, donc on goûte pas de la même façon. Donc j'ai réappris à goûter. Donc il faut apprendre à goûter toutes ces boissons et être curieux sur leur mode de consommation historique, culturelle dans les pays d'où elles proviennent et comment on peut les adapter à notre mode alimentaire ou dans mon restaurant, comment je peux les adapter. C'est une ouverture incroyable et j'ai énormément appris pour moi pour la dégustation de vin. En goûtant des sakés, des thés, en allant étudier les différentes formes de spiritueux dans d'autres pays, et même juste les kombucha, les kéfirs, les tepaches, qui sont une boisson fermentée à base d'ananas qu'on trouve au Mexique notamment. J'ai énormément appris sur en fait, comment je goûte, comment les composés ont des synergies, et comment est-ce que je peux apprendre de ça pour le vin. J'ai vraiment... c'est un métier exceptionnel parfois on me dit oui, sommelier, c'est juste le vin. Non, c'est tout. Et apprendre le reste me permet en fait d'être encore plus sensible, plus affûté pour le vin qui quand même reste mon cœur de métier.
Donc savoir déguster, ça fait partie des standards d'excellence du métier, par exemple. C'est quelque chose qu'on vous demande de savoir correctement faire quand vous passez un concours.
Oui, absolument. On a des épreuves. Alors, les concours de sommellerie ont plusieurs types d'épreuves pour un petit peu comprendre le niveau de compétences que nous avons. Et une des grandes épreuves qu'on connaît dans la sommellerie, c'est la dégustation et la dégustation à l'aveugle. C'est-à-dire goûter, reconnaître en quelques minutes des produits du monde entier. Donc, pour pouvoir faire cet exercice qui est extrêmement technique et qui n'est pas forcément l'exercice qu'on fait au quotidien, évidemment, il faut vraiment apprendre à déguster. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa physiologie, il faut avoir la capacité de discriminer des sensations en un temps extrêmement rapide, de les identifier et après de les énoncer. Et c'est un petit peu, je fais assez souvent le rapprochement avec des sports de compétition, en fait, où l'organe avec lequel je travaille, c'est mon nez, c'est ma bouche, c'est les sens du toucher, et il faut avoir beaucoup goûté, comprendre sa physiologie, et après avoir vraiment pratiqué. Donc il y a une certaine excellence au sens où dans le concours, on est dans des paramétrages extrêmement rapides, et pour avoir ces niveaux de réflexes, en fait, de connaissances, oui, il y a une certaine forme d'excellence. Après, cela demande aussi, pas d'ignorer, mais de ne pas intégrer la totalité de la complexité du monde du vin. Donc on nous demande malgré tout de reconnaître des grands classiques de dégustation, de pouvoir analyser des grands process de vinification, et ce qui rend la tâche un peu plus facile, parce qu'autrement on parle quand même de millions d'échantillons possibles, avec une production qui chaque année continue, et avec évidemment des vins qui vieillissent. Mais on doit être capable de ça, oui. Donc c'est un entraînement que j'associe assez facilement avec le sport de haut niveau. Oui.
Et c'est à la fois un sprint et un marathon, parce que la préparation dure longtemps. Là, vous commencez, ce sera dans un an, le concours. Et puis en même temps, c'est un sprint quand vous êtes en plein concours, parce qu'effectivement, vous avez quelques secondes, minutes parfois, pour reconnaître une boisson, la décrire. Et là, on est dans un niveau de technicité qui est très, très impressionnant. Mais vous avez commencé tôt, vous, Pascaline Le Pelletier, à pratiquer ces concours, puisque toute jeune sommelière, dans les années 2000, vous avez déjà eu les titres de meilleur élève sommelier du Val-de-Loire, de meilleur jeune sommelier de Bretagne, décerné en 2006, puis vous avez fait 3 finales du meilleur sommelier de France en 2008, en 2010, en 2012. Alors, est-ce que vous avez vu, malgré tout, évoluer ces concours, à la fois dans la façon de les préparer, mais aussi dans le niveau requis. Est-ce que le niveau est meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans quand vous avez commencé ?
Oui, il y a une évolution du métier, effectivement, tout simplement parce qu'il y a une évolution de la profession et une évolution du monde. Donc les concours de sommellerie sont quand même des miroirs de l'industrie dans laquelle j'évolue. Au fur et à mesure, d'autres nations se sont aussi intéressées aux concours et la sommellerie, en fait, a gagné des pays qui n'avaient pas forcément de culture du vin ou qui n'étaient pas des pays viticoles et qui se sont vraiment intéressés au vin et qui ont fait du vin une présence réelle dans leur restauration, dans leur gastronomie. Je pense aux pays asiatiques, au Japon, aux pays du Nord. Enfin, aujourd'hui, le concours mondial, ça va être 67 pays de mémoire, alors qu'il y a quelques années, on était à une vingtaine. Et donc, ce qui se passe, et je trouve ça fantastique, c'est qu'à mesure que d'autres pays intègrent notre association, on s'intéresse aussi à la culture de ces pays-là. Et donc, on a intégré toutes ces boissons dont vous parliez. Donc, aujourd'hui, le nombre de productions viticoles ayant augmenté partout dans le monde, nous ne sommes plus seulement interrogés sur les grands classiques du monde du vin, la France, l'Italie, l'Espagne. D'ailleurs, même dans nos questionnaires, il y a un nombre limité de questions sur ces pays-là. Et on doit connaître beaucoup plus de pays. L'Angleterre ne produisait pas beaucoup de vin, par exemple, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on peut goûter un effervescent à l'aveugle d'Angleterre. Ça fait partie du concours mondial. Des vins de Géorgie, des cépages rares que l'on trouve que dans certains pays de l'Europe centrale. Donc oui, on est passé en fait peut-être de quelque chose d'un petit peu européen centré à quelque chose de beaucoup plus internationalisé. Et donc le niveau de connaissance qui nous est demandé est bien plus large. Mais en même temps, à l'époque, quand j'ai commencé, on n'avait que les livres. Moi, je suis encore dans une situation presque pré-internet. Et aujourd'hui, on a aussi accès à des bases de données beaucoup plus larges en termes d'accès à la connaissance, d'accès aux produits. Donc, oui, on a le métier et le métier suit en fait l'évolution de la société.
Vous voulez dire que vous n'êtes pas obligé de voyager dans le monde entier pour aller acquérir les connaissances requises pour passer les concours ?
Non, on n'est pas obligé de voyager dans le monde entier. On peut vraiment, grâce à Internet, aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses. Et moi, en plus, à New York, j'ai la chance de vivre dans une capitale mondiale du vin. Donc, j'ai quasiment toutes les boissons du monde qui arrivent à New York. Après, il y a quand même la connaissance du terrain. C'est-à-dire que on voit quand même la différence entre apprendre dans les livres et goûter quelques bouteilles et vraiment aller visiter les vignobles et vraiment s'imprégner de la compréhension du pays. Et moi, en plus, je suis quelqu'un qui a besoin, j'ai une mémoire très très visuel, très tactile, et je vois la différence que je voyage dans un pays, que je ressens la lumière, que je vois les paysages. J'ai besoin de voir les paysages viticoles plus autant que les livres en fait, et je vois vraiment que ma mémorisation est bien meilleure quand je suis allée dans et la rencontre de l'homme et ou des vignerons. Ça vous permet vraiment de comprendre le vin, le pourquoi d'un vin. Je prends une région comme par exemple le Porto. C'est quelque chose de déguster des grands Portos, de pouvoir les apprécier. Mais une fois que vous êtes au Portugal, dans cette vallée du Douro, que vous voyez ces collines de schiste incroyables qui ont été vraiment sculptées par les hommes sur des millénaires, mais c'est quelque chose dingue. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Quand vous êtes là-bas, vous comprenez la puissance de ce vin.
Alors, vous nous disiez que c'était presque physique, hein, comme préparation. C'était comme une compétition sportive. Par exemple, quand vous avez passé le concours France, je crois que vous avez été accompagné par un coach théâtral spécialiste de Broadway. Donc c'est aussi une mise en scène de soi, c'est aussi comme si vous étiez en représentation sur scène.
Absolument, oui. Bah les concours sont généralement maintenant filmés, télévisés sur des scènes avec micro, donc on est vraiment sur une scène. Quand on est en salle au restaurant tous les soirs, on est comme dans une salle de théâtre. Donc la performance entre guillemets de l'interaction avec le public, je l'ai, mais je l'ai en intime. Là, on est vraiment sur une scénarisation en plus, et pour que ce soit intéressant pour le public, il y a vraiment une petite scénarisation qui est créée. Et donc oui, pour les concours, je suis pas une spécialiste de la scène. Il faut faire passer les émotions en quelques instants. Il faut contrôler son stress. Il faut avoir un débit de parole. Il faut avoir une position du corps. Ce sont des signes non-verbaux qui influent aussi le jury. Hein, donc oui, j'ai préparé les scènes avec des spécialistes de la scène parce qu'en fait, j'étais pétrifiée de stress. Et le stress influe sur la physiologie. Donc même mes capacités à goûter étaient affectées par ce stress parce que subitement j'avais un peu plus d'acidité en bouche et donc ça influait sur ma capacité à goûter un vin. Donc j'ai travaillé avec un coach scénique, mais en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure, et pour les derniers concours, notamment celui que j'avais préparé, j'ai fait évoluer ma préparation avec un préparateur physique, un psychologue du sport pour la concentration, et je travaille aujourd'hui avec des spécialistes de la respiration et du yoga, en fait, pour vraiment comprendre mon corps et pour vraiment voir à quel point le vin et le goût en général, en fait, je les méconnaissais. Et je suis vraiment en train de faire un travail de fond pour vraiment apprécier mon corps et mon esprit et essayer de les comprendre.
C'est comme un moyen d'introspection, de connaissance de vous-même.
Oui, alors ça, c'est arrivé plus récemment. C'est-à-dire qu'originellement, j'ai vraiment passé les concours parce que j'arrivais tard dans la sommellerie, j'étais relativement âgée, j'avais pas du tout de formation de restaurant. Et c'était une époque où le concours, quand même, permettait une certaine crédibilisation assez importante et assez rapide. J'étais en plus une femme et j'étais déjà intéressée par des types de vins un petit peu différents. Donc le concours, vraiment, je les ai passés rapidement. Parce que j'aime bien les concours en général, me challenger, mais c'était vraiment pour gagner de la crédibilité. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques temps pour gagner de la crédibilité. Ça n'a pas forcément marché. J'ai fait ces 3 finales de meilleurs sommeliers de France où, en fait, je me rendais compte que j'étais pas dans le moule. J'étais déjà aux États-Unis, ça devenait compliqué. Donc, j'ai fait un petit break. J'ai passé un diplôme aux États-Unis où je me dis, bon, quand même, je continuais ça. Donc, il y a toujours cette idée quand même que le concours me permet d'approfondir mon savoir. Ça, c'est évident, je l'ai su dès mes études avant. Mais ce qui s'est passé avec les derniers concours, et notamment après le France et le MOF, le MOF qui a été une super préparation, meilleur ouvrier de France, là, je me suis rendu compte que au-delà du savoir, si je voulais vraiment passer le plateau suivant, je me heurtais en fait à un plafond, et je n'ai pas compris pourquoi pendant un certain temps, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, je ne m'étais jamais interrogée sur moi en tant que personne qui goûte. En fait, quand on vous donne un verre de vin, c'est presque comme si vous pouviez goûter tout le temps bien. Mais imaginez, je ne sais pas, quelqu'un qui va courir, s'il ne s'échauffe pas, s'il ne comprend pas son corps, il va se blesser, ou à un moment donné, il ne peut pas aller plus loin. Donc c'était un peu cette idée-là. Et donc j'ai commencé les concours, j'ai fait cette scène internationale, j'ai fait de la scène, j'ai compris. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et après le mondial 23, en fait, je me suis blessée. Mon corps était hyper fatigué et tout. Et j'ai eu un problème au genou, je me suis blessée. Et là, je devais commencer à repréparer le concours suivant. Et je me suis mis à faire un différent type de sport. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de physique. Déjà à l'époque, j'avais été accompagnée pour le mondial par l'équipe de France de tir à l'arc olympique. Le DTN, le directeur technique national, est un grand amateur de vin. On s'est rencontrés, on est devenus amis. Et il m'a dit, tu sais, il faudrait peut-être que tu penses à une préparation un petit peu dans cet esprit-là. Et c'était le tir à l'arc. Alors c'est par hasard, parce que Benoît Binon, qui est le DTN, tir à l'arc. Mais en fait, il y avait beaucoup de proximité avec le tir à l'arc, parce qu'on doit être extrêmement concentré sur des microsecondes, il ne faut pas qu'on bouge trop, il y a un travail du corps, de la respiration. Et j'ai commencé à faire un petit peu de travail physique avec eux pour le mondial, court. Le mondial 4e, je me blesse après, je le recontacte pour me remettre dans une préparation physique pour réparer mon genou. Et en fait, là, je commence à vraiment travailler sur le physique. Je commence à vraiment travailler sur l'exercice du corps, de respiration, de détente. Je me mets à faire du yoga et je me rends compte à quel point, en fait, ça a un impact. Je savais théoriquement que ça avait un impact. Je l'avais lu, je l'avais écrit, je savais que physiologiquement, mais je ne l'avais jamais vraiment mis en pratique. Et donc, depuis 2023 et cette évolution, je suis vraiment plus que dans... Effectivement, je suis bien au-delà. Je savais que le vin m'ouvrirait une ouverture culturelle incroyable, la langue, le travail juste du palais. Mais aujourd'hui, je vois à quel point c'est un médium exceptionnel pour vraiment aller vers soi de l'intérieur et se rendre compte que par le goût, par cette sensibilité, vous pouvez vraiment atteindre quelque chose de beaucoup plus grand, une vraie connaissance de soi qui va vraiment sur un bien-être, une sérénité physique. Et je suis vraiment excitée de préparer cette prochaine compétition parce que je suis dans une voie, un peu comme dans une voie japonaise, un peu ce côté shadow, la voie du thé, enfin cette une discipline physique. Et je me suis jamais sentie aussi bien, je me suis jamais sentie aussi physiquement prête, enfin grâce à ça, en fait.
On peut voir des extraits de vos performances lors des concours sur YouTube. Il y a des vidéos, donc on peut en voir. D'abord, est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous vous êtes regardé?
Alors, ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu de temps pour que je me regarde. Oui, je me suis regardée parce que lorsque j'ai voulu refaire des compétitions, il a fallu que je comprenne un petit peu ce que je donnais sur scène, comment était vécu du côté spectateur et pas du côté moi, actrice sur scène. Donc oui, je les ai regardées, on les a analysées. Je regarde pas trop non plus. C'est assez difficile de se regarder, mais c'était nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir comprendre des choses. Oui, c'est assez marrant de voir ça. Oui.
Alors, quand on n'est pas du tout dedans, Pascaline Le Peltier, je dois bien avouer que c'est extrêmement impressionnant. J'invite les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à aller voir. Hein, c'est facile, on tape Pascaline Le Peltier, concours du meilleur sommelier du monde ou de France, et on peut tomber dessus. Et on voit par exemple les questions en quart de finale du concours du meilleur sommelier du monde, indiquer le pays d'origine du cépage Yan 73. La Chine, en l'occurrence, Bishti, Siena, Chinuri, Anna Belchaï, indiquer les types de sols dominants de ces célèbres vins ou vignobles, Macetto, Gracher, je ne sais même pas comment les prononcer, Dombrobst, Montevero, quel est le seuil sensoriel de l'acide acétique dans le vin, qu'est-ce que c'est Macgeoli, en l'occurrence un alcool de riz coréen. Bon, c'est quelques exemples comme ça, sans parler de la dégustation à l'aveugle. Je me demande, après avoir regardé ces épreuves, et en particulier celle du Mondial 2023, comme vous dites, où vous avez fini au pied du podium, quatrième, sur quelle épreuve vous avez perdu la partie? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez perdu?
Oui, je le sais, ouais. Oui, je le sais. J'ai mal compris une consigne sur un atelier. J'ai pas compris la consigne. Donc c'était en 2 minutes, et si vous faites pas ce qu'on vous demande en 2 minutes. Et après j'ai fait une mauvaise dégustation. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs ateliers, ça s'enchaînait. Donc c'est des épreuves de 2, 3, 5 minutes, et entre temps on a à peu près entre 30 secondes et 2 minutes pour se remettre en selle. Et donc sur la première épreuve, j'ai fait une bonne dégustation, et je savais que j'avais fait une bonne dégustation, et ça s'est enchaîné sur une deuxième dégustation 30 secondes après, et là je pense que j'étais encore dans l'adrénaline de sentir que j'avais bien dégusté, et la seconde dégustation j'ai très mal dégusté, et là j'ai perdu des points, et donc voilà, et je suis arrivée quatrième, et j'ai découvert ça, c'était ma première compétition internationale à ce niveau, c'était en plus en France, donc il y avait un petit peu de pression normale de la part du pays.
Pourquoi? Parce qu'on est le berceau de la sommellerie?
Oui, alors effectivement, en termes d'association et de connaissance de la sommellerie, la France, effectivement, on a été pionniers grâce à l'art de la table que nous avons en France. On a une culture gastronomique exceptionnelle, et on a mis effectivement les vins au cœur de l'expérience très rapidement avec la spécialisation. Donc oui, la France effectivement est un peu terre de sommellerie. C'était à Paris, c'était un événement exceptionnel, magnifique, qui avait vraiment été soutenu nationalement. Donc et donc j'étais dans cette pièce, il y avait plein de médias français, et là j'ai mal géré le stress.
Une pression particulière
que je pensais gérer, et en fait il y a toujours ces petites choses, et comme je vous dis, ça va tellement vite que cette espèce d'adrénaline vous fait un peu flotter, vous perdez un petit peu l'acuité, vous perdez le focus. Et j'ai pas réussi à descendre assez rapidement, et j'ai fait une erreur de débutant sur un vin que j'aurais dû reconnaître. Et donc voilà, donc j'ai appris de la leçon.
Oui, vous parlez du temps beaucoup, parce que par exemple, il y avait reconnaître 5 boissons fermentées non alcoolisées à l'aveugle en 2 minutes 30 et faire un menu vegan en 3 minutes.
Oui.
C'est ça, hein? Bon, c'est très impressionnant. Mais parlons de cette France berceau de la sommellerie un instant, Pascaline Le Peltier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une école française de la sommellerie? Est-ce que la sommellerie, elle est différente en France et aux États-Unis où vous vivez aujourd'hui? Par exemple.
Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de points communs et de synergies, mais oui, il y a des grandes règles de service, effectivement, ont été petit à petit développées en France, parce qu'en fait, nous avions à la fois la culture vitivinicole, les vins, une diversité de vins exceptionnelle, et petit à petit une gastronomie qui a permis de faire tout ce travail d'accords mets et vins, les accords mets et vins théorisés, mis en scène. Voilà, on sait que c'est en France. Alors après, évidemment, régionalement, dans toutes les régions du monde qui ont fait du vin, il y avait le vin produit régionalement et une cuisine régionale, pas forcément nécessairement immédiatement en accord, au sens où il y avait vraiment une réflexion sur les synergies. C'était juste normal. On, on, On a ce proverbe en anglais qui dit what grows together goes together, donc ce qui pousse ensemble va ensemble, donc des vins marins à côté de la mer, des vins, enfin voilà. Mais c'est vraiment la France qui, grâce à ses critiques gastronomes, Bria Savarin puis les autres après, Kurnansky, qui ont vraiment développé cette idée d'accord mais et vins, qui a été aussi en fait encouragé par les différentes régions viticoles. La Bourgogne a été vraiment pionnière sur la théorisation de certains accords mets et vins, ce qui fait que la verrerie, le service, la décantation a été un petit peu, oui, au cœur de la gastronomie française, et ce depuis longtemps. Et par la suite, ça s'est transmis à d'autres pays. Et ce qui fait que la France a mis en place des règles, un art de la table, le guéridon par exemple, la bougie pour décanter, ce qui veut dire transvaser une bouteille dans une carafe pour enlever les sédiments parce que les vins n'étaient pas forcément filtrés. Vous n'avez pas forcément ça lorsque vous allez au Japon, parce que ce n'est tout simplement pas la même gastronomie et pas le même art de la table, ou aux États-Unis où il n'y avait pas cette connaissance-là, elle est venue vraiment par la gastronomie française. D'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne étaient beaucoup plus proches de ces cultures gastronomiques ou de l'Allemagne. Et donc, on a des grands gestes techniques à connaître, hein, de service, et aujourd'hui, ils sont quand même développés à l'international, et nous apprenons inversement d'autres techniques d'accord mets et vins ou de service du vin, notamment sur le travail des températures, par exemple, où on dit qu'on a souvent une température un petit peu fine pour une certaine bouteille, pour un certain type de profil de vin. Un vin blanc ou un vin rouge ne vont pas forcément servir à la même température. Mais par exemple, on apprend beaucoup aujourd'hui du saké, qui est un alcool fermenté à base de riz et qu'on peut servir à plein de températures différentes. Quand vous êtes au Japon, vous pouvez servir le saké à la température de la neige, ou à la température de la peau, ou à la température du soleil, par exemple. Ils ont des mots pour ça. Donc on passe de quelques degrés à 35, 40, 45 degrés, le saké chaud. Et donc vous avez le même saké servi à plein de températures différentes. Et je pense que ça a un petit peu fait progresser sur certains types de vins qu'on servait trop froid ou trop chaud. Et voilà. Donc on apprend beaucoup. Donc il y a une sommellerie aujourd'hui beaucoup plus universelle, on va dire, grâce aux échanges internationaux et cette transmission originelle des techniques de service que nous avons développées en France.
Vous parliez tout à l'heure de vos études d'avant. On va y venir dans l'épisode 2. Vos études d'avant, c'est des études de philosophie. Vous avez poussé assez loin les études de philosophie. D'ailleurs aussi, passé des concours à cette époque-là. Peut-être qu'il vous en reste quelque chose de cet esprit compétitif. Est-ce que vous gardez autre chose que cet esprit compétitif de la philosophie dans votre nouveau métier de 20 ans maintenant quand même ?
Ah oui, surtout que oui, absolument. Non, la philosophie a été vraiment un apport incroyable dans ma vie, et j'espère que la philosophie me nourrit toujours aujourd'hui sur deux choses, sur l'esprit d'émerveillement et l'esprit critique que j'essaye vraiment au quotidien de pratiquer. En fait, j'ai même pas besoin d'essayer parce que le vin m'oblige à continuer de m'émerveiller et d'être critique au quotidien. Donc non, la philosophie fait partie de mon quotidien, oui.
C'est une très belle transition vers l'épisode 2, Pascaline Lepelletier. Tout l'univers, on voit bien la curiosité et la passion qui est la vôtre, tout l'univers. C'est d'ailleurs un livre que vous lisiez de façon boulimique, je crois, quand vous étiez enfant. C'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant, tout l'univers de Bergson à Torel. Merci et bonne soirée.
Merci beaucoup.
C'était À Voix Nue avec Pascaline Lepelletier, réalisation Yvon Croisier, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.